Elle s'est infiltrée partout.
Née du feu de l'enfer, forgée par la magie du nécromancier.
Radio Campus. Campus.
Bon courage, on reste en liaison sur les ondes.
Ouais.
88.3.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché au palais de la
Syrie. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Bienvenue dans Abattons Rompus sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Si vous nous rejoignez pour la première fois, sachez qu'Abattons Rompus est un magazine d'infos hebdomadaire sur divers sujets d'actualité que je présente ici tous les mardis avec l'ami Victor. Bonsoir Victor. Est-ce que son micro marche ? J'allais te dire, mais son micro va pas marcher. Enfin, il y a un truc, vas-y.
Allô.
Est-ce qu'on t'entend ? Est-ce qu'on t'entend ?
Allô. Oui. Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Salut Victor. Vous le savez, ici, un des sujets qui nous intéresse le plus en ce moment sont les mobilités douces et durables, le vélo notamment. Nous en avons récemment parlé et même beaucoup parlé dans cette émission. Ce mardi, nous nous intéressons sur ce qui se passe ailleurs que dans la métropole orléanaise. Dans quelques minutes, nous entendrons Monsieur Cyril Signeux, qui est adjoint au maire de Clermont-Ferrand, chargé des mobilités durables notamment, et conseiller à la métropole Clermont-Auvergne également. La métropole là-bas s'est donné des objectifs ambitieux en matière de plan vélo. Il nous expliquera en studio avec moi, avec nous, avec Victor et moi, Ludovic Bourreau. Bonsoir Ludovic Bourreau.
Bonsoir Hassan, bonsoir à tous.
Conseiller municipal d'opposition, hein. Groupe Orléans Ensemble. C'est ça ? Je ne sais plus. Votre groupe.
J'ai presque oublié moi aussi.
Oui. Mais en tout cas, d'opposition, c'est sûr, et conseiller métropolitain également.
Absolument.
Et vous vous battez hein, pour, en conseil municipal comme en conseil métropolitain pour une vraie politique vélo ?
Oui, absolument. La politique cyclable, c'est quelque chose que j'ai identifié depuis le début du mandat. Donc, C'est un sujet qu'on traite au long cours, malheureusement, j'allais dire, puisqu'en fait, on ne voit pas beaucoup d'évolution.
Ouais. Le maire d'Orléans en a parlé récemment chez nos confrères de France 3. Votre groupe municipal a tenu à lui répondre. C'est vous qui avez écrit le petit texte qui paraîtra dans Orléans Mag.
Oui, absolument. C'est je crois, la cinquième tribune qu'on écrit autour de la politique cyclable. C'est dire quand même que le sujet est pour nous important. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est que après avoir écouté M. le maire être dithyrambique sur la politique cyclable de sa ville, nous, on était plutôt désabusés, quoi. C'est-à-dire, grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? Enfin, c'est plutôt ça.
Bon, nous en parlions donc la semaine dernière, ou il y a 15 jours avec Mourad, justement sur l'intervention du maire d'Orléans. Mourad, qui devait être en studio avec nous, n'est pas en studio, il est toujours à Lille. On l'écoutera après l'intervention de Cyril Sine dans une poignée de secondes. On parlera aussi avec vous, hein, Ludovic Bourreau, de culture, parce que c'est aussi votre domaine, hein, de vos domaines préférés.
De prédilection ou depuis 15 ans maintenant.
Oui, depuis 15 ans maintenant. Il y a des choses qui se passent à Orléans, il y a des festivals qui se font, qui se défont. Et en tout cas, est-ce qu'il y a une politique culturelle en fin d'émission, si vous voulez ?
Vous voulez que je réponde maintenant ?
Non, mais on aura un peu le temps. Mais ah oui, en plus, je pense que vous devez partir
Reste sujet.
Ouais, vous devez partir assez vite aussi parce que vous allez supporter nos basketteurs de l'OLB, hein, c'est ça ?
Absolument, en demi-finale à Comet.
À bâton rompu, c'est jusqu'à 20h. Merci d'être avec nous.
À bâton rompu, avec Hassan Kerim.
Les mobilités douces dans les agglomérations, dans les métropoles, nous en parlons maintenant. Comment fait-on ailleurs, hein ? Vous savez que nous en parlons beaucoup dans cette émission. À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Nous partons vers Clermont-Ferrand avec Cyril Sine. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Vous êtes adjoint au maire, chargé notamment des transports, et c'est vous qui travaillez sur les mobilités douces dont on va parler. Et vous êtes également élu à la métropole clermontoise.
C'est ça.
Alors, on a lu pas mal de choses, hein, notamment chez nos confrères de la montagne. À Clermont-Ferrand, vous faites énormément de choses pour les vélos. D'abord, la première question, ce sont les voies cyclables sécurisées à Clermont-Ferrand. C'est combien de kilomètres ?
Alors, de tête, comme ça, je vous le dirai.
Ouais, je leur apprends plein. Vous êtes également élu à la métropole clermontoise.
C'est ça.
Alors, on a lu pas mal de choses, hein, notamment chez nos confrères de la montagne. À Clermont-Ferrand, vous faites énormément de choses pour les vélos. D'abord, la première question, ce sont les voies cyclables sécurisées à Clermont-Ferrand. C'est combien de kilomètres ?
Alors, de tête, comme ça, je ne vous le dirai pas. On a voté il y a maintenant 5 ans, 6 ans. Un schéma cyclable avec l'ambition de réaliser 360 km de pistes cyclables à l'horizon 2030-32. Schéma cyclable qu'on a souhaité accélérer depuis 2020. Alors avec les péripéties du Covid et du confinement qui ont retardé un peu les projets, mais c'est l'ambition qu'on fixe et on a commencé, donc on doit être sur ce schéma, on doit être à 10% de réalisation, 15% de réalisation, me semble-t-il.
Toutes ces décisions ont été prises en concertation avec la population. J'ai vu que vous avez fait énormément de réunions avec la population. Et quelle est la part justement des propositions de la population, et notamment celle qui fait du vélo ?
Ah ben, quand on a voulu définir ce schéma cyclable, on a travaillé notamment avec une association, avec les associations, mais notamment avec une qui est extrêmement engagée pour la défense et la promotion du vélo, qui s'appelle Vélocité 63. Et donc, on a travaillé en concertation avec eux tout le long du processus. Il n'y a pas une piste, un tracé qui n'a pas été vu ensemble et validé ensemble. L'objectif n'étant pas de décider par-dessus faire ces pistes, mais bien qu'elles correspondent à une pratique, à une expertise d'usage, pour qu'elles soient le plus utilisées par la suite. Alors, vu qu'on a commencé à construire ça en 2015-2016, évidemment, on ajuste aujourd'hui sur des pistes, mais ça a été une concertation, et c'est pour ça que ça prend un peu de temps, parce que évidemment, quand on concerte, ça prend la démocratie, ça prend du temps, et ça correspond pas tout le temps à, comment dire, aux besoins des usagers qui, eux, voudraient tout de suite de nouvelles pistes cyclables. Ça nécessite un peu de temps pour construire tout ça, mais la concertation, elle est indispensable.
Eh bien, justement, alors, après avoir lu tout ce que, dans la presse, hein, tout ce que vous avez fait, notamment la concertation, est-ce qu'il y a des râleurs quand même à Clermont-Ferrand et qu'est-ce qu'ils disent ?
Ah ben ça, des râleurs, il y en a bien sûr. Vous avez les automobilistes qui râlent parce que quand vous supprimez une voie de voiture, évidemment ça crée des embouteillages et c'est jamais très agréable. Moi je suis cycliste, je suis aussi automobiliste et quand je suis pris dans les embouteillages, je suis comme les autres, je suis pas très content de passer mon temps dans la voiture. Donc vous avez évidemment ça, vous avez quelquefois des riverains qui peuvent râler aussi parce qu'on supprime du stationnement. Et puis de l'autre côté, on a quand même les cyclistes qui nous disent que ça ne va pas assez vite, qu'il en faudrait plus, qu'il en faudrait partout. Et on essaye d'expliquer que de décider d'une piste cyclable, c'est une chose, que de la réaliser, c'est-à-dire de la fabriquer, hein, en supprimant du stationnement, en supprimant une voie de circulation, mais aussi en la sécurisant avec différents moyens. Des fois, c'est des plots pas forcément très esthétiques que l'on pose pour éviter que les voitures viennent se garer dessus. Ça prend un peu de temps et que le temps de la réalisation, c'est pas le temps de l'imagination, quoi. Et donc, on est en butte à ceux qui ne font pas de vélo et qui sont pas forcément satisfaits de voir des pistes cyclables, et puis aux cyclistes qui estiment que tout ça ne va pas assez vite. Mais on a aussi quelques satisfaits qui prennent les pistes nouvelles et qui disent que c'est super.
Mais ces décisions-là restent très politiques, hein, parce que le fond de ma question, c'est est-ce que vous êtes une municipalité de gauche, vous-même vous êtes communiste, il y a un maire socialiste, est-ce que c'est plus facile, j'allais dire, entre guillemets, de travailler, notamment vous êtes aussi avec des écologistes, que quand on est de droite ?
Alors,
c'est
une question difficile parce que d'abord le schéma cyclable il a été adopté par la métropole où il y a des élus de droite, des D'accord. élus du centre qui l'ont voté. D'ailleurs le vice-président au schéma cyclable de la métropole du centre, à l'UDI. Mais
ça n'en reste pas que c'est une vraie décision politique de dire.
Oui, bien sûr. Voilà. Alors c'est une vraie décision politique qu'on assume parce que évidemment les travaux, beaucoup de travaux sont sur la ville de Clermont et nous depuis longtemps on a expliqué et on a porté l'idée qu'il fallait une révolution des mobilités, hein, que ce soit pour le transport en commun où nous avons un grand projet. De mise en site propre de lignes de bus et de restructuration du réseau pour permettre à l'horizon 2026 d'avoir un réseau de transport qui nous permette de nous passer de la voiture le plus possible dans la ville. C'est la même chose avec les pistes cyclables. Évidemment qu'il y a des appréciations, des perceptions qui sont plus simples de ce côté de l'échiquier politique. On a notre opposition qui dit qu'il faut développer le vélo, mais dès qu'on touche à une voie de circulation, pousse des cris d'orfraie en disant qu'on va faire des embouteillages. Oui, les travaux, ça nécessite, ça passe par des embouteillages, mais c'est aussi pour avoir des choses plus écolo ensuite, qui permettent un déplacement vélo plus sécurisé, parce que le premier frein à l'utilisation du vélo, c'est quand même la peur des voitures. Et donc, il faut qu'on puisse bâtir des infrastructures qui permettent aux cyclistes d'être serein sur son trajet.
Vous avez déjà fait des infrastructures. Vous avez, par exemple, juste pour la commune de Clermont-Ferrand, j'entends, pas la métropole peut-être, vous avez équipé 38 carrefours, c'est ça, d'un CD le passage destiné aux cyclistes, c'est ça?
Oui, alors c'est les contresens cyclables.
Oui, c'est ça. Alors c'est quoi? Expliquez-nous.
Les contresens cyclables, c'est quand vous avez une rue à sens unique, limitée à 30, puisque nous, on a passé la ville à 30, la ville de Clermont-Ferrand à 30 km/h. Quand vous avez une rue en sens unique, vous pouvez faire un contresens cyclable, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes à 30, le vélo, lui, peut rouler dans les deux sens, sauf quand vous mettez un panneau et que c'est interdit parce que ça pourrait être trop dangereux en fonction de la configuration de la rue. Donc à l'occasion du passage de la ville à 30, et c'était un de nos objectifs aussi, de développer la pratique du vélo, on a mis un certain nombre de rues où le vélo peut circuler à contresens et elle seule. Alors ça surprend quelquefois les automobilistes qui avaient l'habitude d'être tout seuls et de pas faire très attention forcément à ce qui les entourait. Mais c'est aussi une mesure qui met en sécurité les cyclistes. Alors c'est un peu contre-intuitif, mais ça met en sécurité les cyclistes. Parce qu'en fait, vous voyez, quand vous êtes automobiliste, vous voyez le vélo en face de vous, que le cycliste, il voit la voiture en face, et qu'à part le cas extrême où il y aurait un fou dangereux au volant qui voudrait écraser tout ce qui bouge, bah, les gens, ils s'arrêtent et ils laissent passer le vélo ou ils se garent suffisamment pour qu'il y ait de la place pour chacun.
Ouais. Vous êtes allé un petit peu plus loin en verbalisant, j'allais dire, les véhicules. Hein, on en a beaucoup à Orléans et nous avons des amis d'associations cyclistes qui se plaignent auprès de la mairie, des gens qui se garent, vous voyez, sur les trottoirs ou qui se garent carrément sur les pistes cyclables. Vous êtes allé à Clermont-Ferrand plus loin. Vous avez pas d'impunité. Enfin, c'est quoi ? Pas d'impunité, c'est ça ?
Bah, c'est oui, pas d'impunité. Alors, le trottoir, il est réservé aux piétons. La piste cyclable, elle est réservée aux cyclistes. Les passages piétons sont réservés aux piétons. Donc, évidemment, il y a des consignes données à la police municipale de ne pas de faire son travail, c'est-à-dire de mettre des amendes à ceux qui sont mal garés. D'abord parce que c'est la loi, première chose. Deuxièmement, parce que ça met en danger les autres usagers de l'espace public. Et c'est quelque chose que je défends et sur lequel je m'évertue à communiquer le plus possible. En fait, quand vous vous garez sur une piste cyclable ou sur un trottoir, même pour 5 minutes, vous mettez potentiellement en danger un cycliste ou un piéton. Et donc, il faut avoir ça en tête quand on fait ça. Et on l'a tous fait à un moment ou un autre dans notre vie, mais moi aussi je suis automobiliste, donc mais il y a un moment, il faut comprendre que ça peut être une mise en danger et que c'est pas si grave que de faire 50 mètres de plus pour aller garer sa voiture et que ça ne met pas en danger les gens. Donc on essaye de communiquer là-dessus. Alors on fait pas des campagnes de dingue sur de verbalisation. La police municipale est prise sur plein de sujets, mais par contre il n'y a pas d'impunité, au sens où quand il y a une voiture en infraction et qu'ils ont les possibilités et les disponibilités pour sanctionner, ils sanctionnent. Et moi je communique ça régulièrement sur les réseaux sociaux pour montrer que ce n'est pas normal, et la voiture elle préempte 80 à 90% de la voirie. Il y a un moment, faut qu'elle accepte d'en laisser un peu aux autres, parce que les piétons et les cyclistes, c'est pas eux qui prennent le plus de place dans l'espace public.
Oui, j'ai vu ça évidemment, effectivement, sur vos réseaux sociaux. Les mobilités douces, c'est également, hein, c'est pas que le vélo, c'est aussi les transports publics. La métropole clermontoise a voté la gratuité pour le tram, je crois, pendant le week-end seulement, depuis quelques mois maintenant. Hein. Est-ce que ça marche ?
Oui, on a voté la mise en place de la gratuité des transports le week-end pour l'ensemble du réseau de bus, hein, tram, l'ensemble du réseau de transport, tram et bus, depuis décembre 2021, et c'est un succès. On est à plus 36% d'augmentation de fréquentation le week-end, avec des familles populaires qui viennent, avec des nouveaux usagers qui sont vite repérés par les chauffeurs, parce que ils sont plus polis que les usagers habituels, nous disent les chauffeurs. Ils disent bonjour, ils parlent avec le chauffeur, ils disent au revoir souvent. C'est souvent des familles des quartiers populaires qui prennent le transport et qui ont accès à un nouveau droit grâce à cette gratuité dont j'ai été, enfin je suis un militant fervent depuis 10 ans et qui me rend plein de fierté parce que c'est une mesure qui permet de changer la vie maintenant, ici, tout de suite, et qui permet à des familles qui n'auraient pas fait de déplacements ou qui auraient dû dépenser de l'argent pour faire ces déplacements, de pouvoir les faire et puis d'avoir un petit pouvoir d'achat supplémentaire, mais aussi d'avoir accès à différents coins de la ville dont ils se seraient peut-être privés si les transports avaient été payants.
Et là aussi, mesure politique, hein, très politique.
Alors ça a été porté d'abord par les élus et les militants communistes depuis 2013. Hein. Ça a été un long chemin, un long combat que nous avons mené, qui n'est pas terminé, parce que nous visons la gratuité totale à l'horizon 2026. Mais c'est une mesure qui a fait, qui a recueilli une large majorité à la métropole, avec là aussi des maires et des élus divers, de diverses sensibilités, non inscrits, mais aussi des élus du centre, des élus UDI, des élus même macronistes, qui ont accepté que nous expérimentions pendant 2 ans la gratuité des transports, et sur laquelle nous faisons une évaluation que nous présenterons dans quelques mois, pour voir si nous reconduisons, ce dont je ne doute pas, l'expérimentation jusqu'à la fin du mandat.
C'était pour 2 ans, hein, cette expérimentation.
C'est ça.
Une dernière question, Cyril Sinu, en vous remerciant, hein, d'avoir pris du temps pour passer sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. On salue d'ailleurs nos amis de Radio Campus Clermont-Ferrand. La dernière question porte sur le plan vélo, hein, que le gouvernement a annoncé récemment, un investissement de 2 milliards d'euros d'ici à 2027. Est-ce que vous avez un point de vue sur ce qui est prévu par le gouvernement?
Oui, j'en ai un. Malheureusement, maintenant, je suis un peu comme Saint-Thomas. Je voudrais voir les choses, parce que les annonces, c'est bien. On nous avait annoncé aussi les questions sur le RER. On est toujours en attente. Et c'est souvent comme ça avec ce gouvernement. Il y a des grandes annonces qui ne sont suivies d'aucun effet. Donc, j'attends de voir. Et puis, oui, il faut investir dans les mobilités douces, dans les transports en commun. Globalement, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, hein, sur le train, sur plein de choses. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, il y a une espèce de vernis écolo à dire qu'on va développer le vélo. Bon, il faut voir ce que ça donne réellement. Je vous avoue que je n'accorde pas une très grande confiance dans les annonces de ce gouvernement tant que je ne vois pas la réalité des choses sur le terrain.
Merci Cyril Sineux, encore une fois, d'être venu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Clermont-Ferrand, chargé notamment des transports. Vous êtes également vice-président à la métropole clermontoise. Alors je ne sais pas, on dit métropole Clermont-Auvergne, hein, il me semble.
Clermont, oui, c'est ça. Voilà.
Merci à vous, vraiment.
Je vous en prie.
À bâton rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Ludovic Bourreau, quelques mots tout de suite sur l'interview avec Cyril Sineu. Jaloux.
Oui et non. Alors, oui, il y a tellement de choses à dire. La première chose, c'est que Clermont, aujourd'hui, n'est pas encore dans les radars des villes aux politiques cyclables identifiées et exemplaires. Et il le dit justement. Ils en sont au début, ils en sont au premier décile, et on sent bien une motivation. Donc, ça très bien. Je voudrais réagir à une chose qu'il a dite, qui est à mon avis très, très intéressante, à laquelle il faut réfléchir. C'est que quand on enlève une voie de circulation, on crée des bouchons.
Oui.
Attention. Oui. Attention, parce qu'il y a eu des expérimentations un peu partout qui ont montré que quand on enlève parfois une voie de circulation, bah, y a une évaporation du trafic.
Oui.
Et parfois, l'impossibilité justement de parcourir, de cheminer en voiture génère des changements de comportement. Et donc du coup, si les transports en commun sont efficaces, si on peut se déplacer autrement à pied, à vélo, eh bien, on pourrait être surpris. Donc attention à ne pas laisser penser qu'en enlevant purement et simplement une voie de circulation, ça peut générer, je dirais mécaniquement, plus de bouchons. C'est un petit peu plus complexe que cela. Après, il faut aussi rappeler... Pourquoi une politique cyclable? Enfin, à un moment où on doit maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre, les mobilités, c'est de mémoire un gros tiers des émissions en France. Et parmi ce tiers-là, la moitié, c'est les émissions, en fait, des voitures individuelles. Et donc, en fait, on est tous concernés par ça. Et donc, c'est absolument fondamental, tous les territoires dans selon Paris, comment est-ce qu'on réduit cette part modale de la voiture? Eh bien, le vélo, c'est un moyen de la réduire. Et donc, pour reprendre un petit peu de part modale à la voiture, c'est-à-dire que pour que vous, que moi, on change certains de nos comportements, qu'on passe de la voiture à d'autres modes de transport comme le vélo, eh bien, il faut nous inciter, nous donner envie. Donc, c'est créer des pistes cyclables sécurisées, tout un maillage territorial. Et donc, ça prend des années. Orléans, le plan vélo voté en 2019, c'est 10 ans d'investissement. C'était prévu 54 millions. On pourra en reparler, mais on est très très loin. Mmh. On n'a quasiment rien fait de ce plan vélo. Et donc, il y a ça, mais en fait, il n'y a pas que ça. donner envie, c'est pas qu'une question de, par exemple, d'économie. Bon, on sait que le vélo, c'est moins coûteux se déplacer à vélo qu'en voiture. OK. Mais on sait très bien que le paramètre principal, c'est l'efficacité. Si vous et moi, demain, on met moins de temps à se déplacer en vélo, on prendra moins notre voiture, c'est mécanique. Et donc, pour ça, il faut un réseau, un maillage de pistes cyclables tellement efficace qu'on va plus vite en vélo qu'en voiture. C'est déjà le cas parfois sur certains axes, tellement c'est embouteillé. Mais donc, il y a tout ce sujet-là. Et puis, comme c'est un sujet complexe, je vais juste finir par un petit point. C'est-à-dire que pour être un petit peu caricatural, on pourrait très bien imaginer qu'un véritable plan cyclable, ce soit aucune création de piste cyclable. On peut très bien imaginer ça. Mais comment on fait ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
C'est ça.
Ben, éventuellement, on pourrait tout passer à 30 à l'heure et on dirait que les vélos seraient devant les voitures et qu'en fait, ils seraient prioritaires. Ça s'appelle des vélos rues. Ouais. Vous voyez,
clairement, est passé à 30 km/h, il me semble, au centre-ville, mais voilà, il y a encore des voitures.
C'est un sujet qu'on a évoqué au conseil municipal et le maire d'Orléans, président de la métropole, s'est prononcé. Il est contre le 30 km/h généralisé.
Oui, absolument.
Pourtant, ce serait bien la première mesure à prendre pour qu'il y ait, si vous voulez, un différentiel. Quand vous et moi, on va dans la rue, quelle que soit notre mobilité, ce qui est dangereux, c'est le différentiel de vitesse entre les uns et les autres. Vous imaginez une trottinette qui passe à 30 à l'heure sur un piéton arrêté, c'est très dangereux. Une voiture qui double un vélo à 60 à l'heure, la voiture, et 10 km/h le vélo, c'est très dangereux. Donc il faut réduire en fait ces différentiels de vitesse. Et si on ne peut pas le faire partout, il faut absolument faire un maillage de pistes cyclables sécurisées. Et Orléans, absolument rien n'est fait, ou quasiment rien, depuis 3 ans. Donc c'est un sujet, voilà, qu'on traite régulièrement.
Absolument. Donc dans quelques minutes, on aura Mourad par téléphone, qui va également avoir, il a écouté le début de l'émission, son point de vue sur les déclarations de Cyril Sineux. Et puis peut-être, ouais, vous discuter un petit peu avec vous. Un peu de musique maintenant, et de la musique, c'est un hommage que Abaton Rompu rend ce soir à un monsieur qui connaissait bien aussi le pays clermontois et l'Auvergne. Il y a vécu la plupart de sa vie. Il est décédé il y a 5 jours, c'est Jean-Louis Murat.
Je vers l'estomac quand s'éveille l'ange dans mon pauvre corps, j'arrache les pierres. Je monte à grand-peine par les chemins que poignent les reines, les assassins. Dans cet univers de cendres où aimer n'existe pas, parfois je prie mon ange et ne m'oublie pas. Nostalgie nous ronge sans retour, nous dérivons, privés de tout retour. Je crains tant le souffle du temps sur moi. J'ai connu sa bouche dans l'au-delà, fais de mon âme une branche, de mon corps un talus. Mais Dieu apaise l'ange, l'ange déchu.
Un des plus grands succès de Jean-Louis Murat. Moi, j'aimais bien, j'aimais beaucoup ce monsieur. Je ne sais pas si vous également.
Je ne connaissais pas du tout.
Tu ne connaissais pas du tout ?
Non.
Mais essaye d'aller voir tout ce qu'il a pu faire comme déclaration, pas consensuelle du tout. Tout le monde n'aimait pas. Mais c'est bien pour ça qu'il n'est pas arrivé jusqu'à vous, cher jeune. Jean-Louis Murat, en tout cas, à l'instant, un hommage, hein, l'ange déçu. Très, 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 très beau morceau. À bâton rompu, on continue.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Tous les mardis de 19h à 20h.
Avons-nous M. Mourad Guichard ? J'aime bien aussi son côté pas consensuel. Est-ce qu'il est au téléphone avec nous ?
Oui, absolument. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Hassan.
Bonsoir.
Bonsoir Victor et bonsoir Ludovic.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir Mourad.
Donc, alors, tu as pu écouter hein, l'interview avec Cyril Sineux sur Clermont-Ferrand, que tu connais bien aussi hein, comme ville. Hein.
Oui, je connais Clermont-Ferrand pour y avoir fait effectuer des reportages, notamment au moment des différentes présidentielles, il y a quelques années de ça, et c'est une ville franchement très agréable. Et à l'époque où j'y étais, il n'y avait pas encore ces avancées sur le vélo, mais grâce aux réseaux sociaux en général et grâce à Twitter en particulier, je suis les aventures de Cyril Sineux qui démarre à 5h55 le matin avec la promenade de son chien. Il poste tous les jours, vous pouvez aller voir.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
De la pharmacie avec l'heure affichée, c'est généralement 5h55. Et donc, je suis plus sérieusement, évidemment, tout ce qu'il met en avant sur les questions de vélo. Et je retrouve pas mal dans ce qu'il a pu dire tout à l'heure sur les gens mécontents, les gens contents et ainsi de suite, les gens en demande. Bien évidemment, il y aura toujours des demandes supérieures à ce qui peut être fait, ne serait-ce que pour des raisons budgétaires. Mais derrière, il y a quand même, on sent qu'il y a la volonté politique. Ça m'a rappelé aussi la Seine-Saint-Denis sur laquelle j'ai travaillé avec les élus notamment, et je rebondis sur ça puisque l'un des élus du conseil départemental de Seine-Saint-Denis m'avait fait une remarque par rapport à la question que tu avais posée tout à l'heure à Tan, à savoir que c'est plutôt transpartisan,
oui.
Par contre c'est tout aussi générationnel, c'est-à-dire que ils arrivent à s'entendre au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, mais c'est pareil avec la métropole clermontoise, avec des élus qui sont effectivement d'un bord différent, qui peuvent être de l'UDI, qui peuvent être même du bon vieux RPR, mais qui, parce qu'ils sont plus jeunes par exemple, vont être plus enclins à embrasser ces possibilités de mobilité douce qui n'est pas forcément dans le logiciel des élus plus anciens qui sont restés bloqués, comme on le dit souvent, à l'ère Pompidou, et qui vont privilégier la bagnole en imaginant que c'est le seul moyen de se déplacer. Quand je suis arrivé à Orléans en 2001, j'entendais encore des commerçants dire no parking, no business.
Oui, c'est vrai.
Pas de place de parking, pas d'affaires possibles. Donc, voilà, là je dis ça pour ceux qui ont séché les cours d'anglais, hein. les auditeurs qui ont séché les cours d'anglais. Ça reste ancré encore, et alors c'est pour ça que c'est très intéressant que tu aies interviewé Cyril Sineux, parce que c'est l'antithèse de ce qui se fait à Orléans, très clairement. C'est-à-dire qu'il y a les moyens, il y a une volonté politique, et il y a surtout le courage derrière de pas être forcément très populaire, parce que oui, c'est un changement de, même si j'aime pas ce mot-là, mais de paradigme dans la ville, et ça demande des moyens et des sacrifices hein, en termes de popularité. Et je pense que c'est ce pas-là que à la fois les élus orléanais ne sont pas prêts à franchir. Mais en plus de ça, il y a derrière une idéologie. Il suffit d'aller voir les vidéos des conseils municipaux et des conseils métropolitains. Je renvoie vers les histoires, vous savez, de questions que pouvaient poser les soi-disant citoyens lambda, mais qui passaient par 10 000 filtres, en commençant par la mairie de quartier jusqu'au conseil municipal. Et les rares questions, je crois que c'était deux questions, si mes souvenirs sont bons, qui arrivaient en conseil municipal. Les deux premières étaient pour littéralement dézinguer les cyclistes qui étaient rendus coupables d'avoir une attitude, une attitude déplorable en ville, alors que c'est quand même pas eux qui causent la mort d'automobilistes, c'est évidemment l'inverse qui se produit. Et malheureusement, Orléans détient un triste record. Tout à l'heure, je crois que Ludovic parlait de danger. On a franchi largement la mise en danger. On est sur une mortalité très inquiétante qui devrait normalement faire réagir les élus et les décideurs, mais comme vous l'avez précisé, il n'en est rien pour l'instant.
Ludovic Opine du chef, donc, je lui laisse le micro, donc. Oui, tout à fait d'accord avec ce que dit Mourad, c'est ça ?
Oui, je voulais réagir à deux choses importantes. Premièrement, la volonté politique et puis ensuite les budgets qui sont alloués. La volonté politique, je parlais tout à l'heure d'une intervention de Serge Gouard sur le 30 à l'heure, je ne vais pas y revenir, mais il y a également une chose très importante, c'est le plan de circulation en fait. C'est grosso modo ce qu'on dit aux voitures, vous pouvez ou pas passer par là et à quelle vitesse. Et ça, à mi-mandat, on en est toujours à zéro réflexion en tous les cas, on ne sait pas où on va. Et c'est de là que part en fait une politique cyclable vraiment ambitieuse, c'est d'un plan de circulation ambitieux où on dit, bah, écoutez, là maintenant sur ces routes-là, on fait passer en priorité les VO parce que c'est un choix politique. Ensuite, il y a les faits. Budgétairement parlant, on avait prévu un budget de 54 millions d'investissements sur 10 ans, donc 5,4 millions par an. cette année, on en est à 1 million. C'est-à-dire que ce qui est budgété, c'est 1 million. On ne tient pas du tout le rythme qui était prévu. Donc ça, ce sont les faits. En 2021, 1 km de piste cyclable sur la métropole financée.
Ouais, c'est ça les chiffres. Hein.
Oui, oui. Mais je l'avais relevé à la métropole.
Oui, absolument.
Personne ne dit le contraire. Ensuite, les faits, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on défait aussi à Orléans? Il y a une, vous savez, les budgets participatifs, c'est très intéressant. Ça permet aux Orléanais de dire, voilà, j'aimerais qu'on finance tel projet. Il y a un projet qui a été déposé, et c'était la vélorue rue des Murlins. Donc la vélorue rue des Murlins, c'est toute la rue des Murlins. Les vélos devaient être prioritaires par rapport aux voitures. Investissement quasiment zéro. Enfin, je veux dire, c'est peut-être éventuellement de la peinture au sol, mais non. À mon avis, c'est un ou deux panneaux et dire les vélos sont prioritaires. Ça avait été validé. Les gens, les Orléanais avaient voté pour ça. Les services avaient validé. Et au final, politiquement, le projet a été complètement sabré. C'est-à-dire que la majorité n'en a pas voulu. Donc ça, ce sont des faits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent et on ne fait absolument rien. C'est-à-dire que la tribune dont vous parliez, Hassan, tout à l'heure, ce qu'on écrit dedans, c'est grosso modo qu'est-ce que vous avez fait pour le vélo depuis 2020, en fait. Les grandes actions qui ont été faites, c'est Olivier Carrel, le précédent maire, qui les a faites. C'est le pont Georges V dédié au vélo. C'est dans la foulée rue Royale. C'est les coronapistes. Et voilà, donc moi, je suis désespéré de voir qu'on n'a absolument rien fait depuis 3 ans.
C'est votre tribune qui va paraître hein, dans le prochain Orléans Mag, où vous vous demandez où sont les pistes cyclables. Et alors, Mourad, on se disait également, il y a 15 jours, c'est que ce dont se vante la nouvelle majorité, c'est l'ancien maire qui l'a fait. Concrètement, la seule chose tangible en termes de circulation de pistes cyclables, c'est le pont Georges V. Et c'est Olivier Carrel.
Ah oui, tout à fait. Je valide ce que vient de dire Ludovic Bureau. D'autant plus qu'il y a à la fois le discours de Serge Grouard sur ces questions-là, qui est tout à fait qui est plus que discutable, notamment au cours de son passage sur France 3, chez nos confrères de France 3, Centre Val-de-Loire. Mais il y a aussi les propos, comment les qualifier modestement et simplement, les propos, allez, on va dire hors sol, de l'élu de Toury, hein, qu'on connaît bien sur cette antenne, hein, le fameux élu Romain Roy, qui en tapant du poing sur la table vous dit les yeux dans les yeux avec force que jamais le plan vélo ne s'est aussi bien porté. Oui. Jamais. Alors c'est complètement fou, puisqu'effectivement le point d'orgue c'est 2019-2020 et c'est effectivement le Covid qui a eu comme effet d'accélérer le coronavirus à l'époque, d'accélérer effectivement cette décision prise par Olivier Carré, qui du coup fait office d'exemplarité, puisque c'est la seule grosse infra. Et tout à l'heure, Cyril Sineux disait, j'avais noté, oui, la démocratie, ça prend du temps. Mmh. Alors oui, ça prend du temps. Il a raison, c'est encore un autre obstacle hein, qu'ils ont réussi à surmonter, ça prend du temps. Alors moi, je le traduis comme le fait que, en termes d'organisation, ça prend du temps, mais ça oblige les élus à écouter. Et nous, le paradoxe complètement fou, c'est que, alors c'est peut-être par réaction, mais le paradoxe complètement fou qu'il y a sur Orléans et sa métropole, c'est qu'on a un nombre incroyable de militants associatifs. Je pense à Vélorue sur Orléans, je pense aux DAMO, qui sont pas des rigolos. Hein. On en a reçu plusieurs ici. C'est des gens qui travaillent leur dossier. Évidemment, je pense au fameux Yann d'Orléans, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, président du DAMO. Enfin, je veux dire, ces dossiers, il les bosse. Il y passe un temps absolument incroyable. Mmh. C'est-à-dire que quand il annonce quelque chose, c'est pas on veut des pistes cyclables pour pouvoir pédaler entre les petits oiseaux et les marmottes. C'est pas ça du tout. Il est vraiment sur des données chiffrées. Il avance ce qu'avançait tout à l'heure Ludovic, c'est-à-dire les promesses faites, les décisions prises, les budgets. Les budgets dégagés et la réalité des choses. Et là, je ne vais pas, même si j'aime bien tirer sur les ambulances, parce que sinon elles provoquent des bouchons et que il faut les dégager des routes. L'élu métropolitain en charge de ces questions est absolument pas à la hauteur. Il connaît moins bien ces dossiers que ne connaissent les fameux militants associatifs. Donc, on gagnerait vraiment à les faire travailler. Avec les élus de tous bords d'ailleurs, et deux à les écouter tout simplement, à les écouter. Et effectivement, là tout à l'heure, Ludovic parlait de peinture. La peinture est devenue un sujet de raillerie, c'est-à-dire qu'en fait, on doit avoir la peinture blanche la plus chère de France, puisque si on rapporte au budget qui est fait réellement, c'est effectivement des marquages au sol de parfois de pistes cyclables qui arrivent nulle part, qui arrivent face à un mur ou qui vient se planter devant un plot et qui du coup rend la circulation dangereuse. Et c'est pas du tout à la hauteur. Alors pour le coup, on a été ici, Hassan et Victor, parfois critiques sur l'opposition municipale. Hein. On a souvent taxé d'inaudibles, voilà, on a du mal à savoir ce qu'ils font, où ils vont, quel projet ils portent. Là, pour le coup, sur le vélo, et je pense également à Jean-Christophe Clausier, sur le vélo, on ne peut pas dire non plus. Et la tribune, effectivement, que j'ai sous les yeux de Ludovic Bourreau, montre qu'il y a aussi des propositions dans l'opposition, mais qui ne sont absolument pas prises en compte ni écoutées par un Serge Groix dont on sait, dont on connaît l'appréciation de l'opposition et l'appréciation d'une parole différente de la sienne.
Le 20 juin prochain, mardi, donc, on sera ici en studio avec un monsieur qu'on appelle Trololo Vélo, qui travaille beaucoup avec Yann d'Orléans également. En discutant un petit peu au téléphone ces derniers jours avec lui, il me dit que dans les services, à la métropole en tout cas, il y a de nouvelles embauches et les gens commencent à en parler. C'est-à-dire qu'ils sont entendus. Évidemment, on leur dit qu'ils en font trop, hein, les faucons yaka, hein, vous voyez, du maire d'Orléans, mais apparemment, ils ont l'impression qu'il y a des choses qui vont se faire. Ludovic, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez vent aussi que dans les services à la métropole, ça bouge?
Je le souhaite. Après, factuellement, encore une fois, il y a un poste, un recrutement qui est ouvert depuis des longs mois désormais. C'est un référent vélo à la métropole.
Oui.
À ma connaissance, ils n'ont pas trouvé la personne pour justement faire le lien entre les différents territoires, les 22 communes et ce plan vélo. Donc il faut un technicien. Et pour cela, il faut une métropole attractive. Et ce qui se dit malheureusement, c'est que la métropole d'Orléans, dans le contexte politique qu'on connaît et des décisions qu'on voit sur le plan vélo, ne sont pas enthousiastes. Comment recruter quelqu'un qui a envie de venir à Orléans et de mettre en place un plan vélo? Suffit de tapoter sur Internet pour voir que, en effet, c'est quand même pas terrible. Il y a une opposition qui traite ce sujet en permanence. Donc la métropole n'attire pas visiblement. On a du mal à recruter cette personne. Première chose. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Mourad, et il avait raison sur plusieurs points. Déjà, le fait d'associer des experts du vélo, des associations militantes, ce sont des experts du vélo. Ce sont des cyclistes du quotidien et qui étudient très profondément le sujet depuis de nombreuses années. Et donc, en fait, ils étaient associés à ce qu'on appelait à l'époque un comité vélo, qui n'existe plus, je crois. Est-ce qu'on consulte aujourd'hui ces experts, ces associations, pour les futures décisions qui seront prises? Je ne crois pas. Il y a, dit-on, une ligne 1 à l'étude, et je m'en réjouis. Ce serait un axe structurant nord-sud, Olivet, Orléans, Saran. Il me semble que les associations que vous avez citées ne sont pas concertées pour mettre en place cette future ligne. Alors même qu'il y a un budget alloué aux études de près de 600 000 euros. C'est-à-dire qu'on va payer des études, et c'est sans doute le tarif pour une telle conception. Mais je m'étonne qu'on n'associe pas les experts locaux de terrain à la construction de ces projets-là, qui sont extrêmement structurants. Donc je trouve ça absolument alarmant.
Et au niveau des élus, comment ça se passe? Parce que, est-ce que ça se passe vraiment... Il y a les commissions, il y a des commissions, et que ce soit à la mairie, au conseil municipal et au conseil métropolitain. Est-ce que vous, de l'opposition, vous êtes vraiment associé à des réflexions de la majorité?
Alors, ce que je vais vous dire là, je pense que ça résonnera auprès d'anciens élus qui m'ont à peu près tous dit la même chose. Et en fait, là, je pense qu'il faut absolument viser personne. C'est-à-dire que je pense qu'il se passe à Orléans, ce qui se passe, à mon avis, dans d'autres villes. Oui. C'est-à-dire que, évidemment, les élus d'opposition sont conviés à leur commission. J'ai des commissions référentes. Oui. Je suis à la commission culture, transition écologique à la métropole. On dit ce qu'on a à dire. On nous écoute. J'observe que, pas que ça reste lettre morte, mais dans le meilleur des cas, on me dit ouais, t'as raison, mais bon, ça...
Mais il n'y a pas de front uni, à Orléans comme ailleurs, il n'y a pas de front uni de l'opposition pour dénoncer justement ces choses qui sont dites et vous avez quand même accès à certains dossiers. Vous savez qu'il y a du retard de prix ou alors qu'on va mettre ça sous le boisseau, mais on va dire que ça continue. Pourquoi il n'y a pas de ce front uni, Mourad, tu serais d'accord avec moi, pour que la presse en parle, je ne sais pas.
Plusieurs choses. Déjà, j'apprends beaucoup de choses dans la presse.
Oui, mais c'est ça qui est dingue.
Bah, oui, mais j'allais dire, on peut le regretter, je le regrette, mais je ne suis pas sûr que dans d'autres villes, ce soit différent. C'est ainsi. On apprend beaucoup de choses en commission et sur le terrain, mais j'apprends beaucoup de choses aussi dans la presse. Donc, en fait, si vous voulez, la majorité n'appelle pas les élus d'opposition pour leur dire, voilà ce qu'on compte faire. S'il vous plaît, taclez-nous. Faut se réveiller. Donc, je pense que ça n'arrivera jamais. Vous parliez d'un front uni, bah je ne sais pas ce que vous entendez par là. En tous les cas, moi, je suis un élu qui parle absolument à tout le monde, à la majorité, à mes collègues de l'opposition. On parle de beaucoup de sujets. Et ça, je trouve que c'est déjà un point de départ. C'est-à-dire, c'est déjà un point de départ de se parler, de se dire, voilà, on n'est peut-être pas dans le même camp, mais il y a une dimension républicaine qui est pour moi fondamentale. C'est de se dire bonjour, de s'adresser la parole et de parler. Oui. Ensuite, après, on développe nos sujets.
Oui. Mourad, avant de te laisser, parce que dans le Grand Nord, je crois que c'est l'heure du dîner, bientôt, hein.
Comme partout en France, oui, tout à fait.
Je voulais parler aussi de cette partie dont j'ai parlé avec Cyril Sineux, qui est la gratuité des transports, parce qu'on en a parlé dans cette émission souvent. Je lui ai posé la question, c'est vraiment très politique comme mesure, ça, non?
Ah oui, c'est, ça coûte très cher. Alors, je crois qu'il y avait le même exemple à Montpellier, oui. Si mes souvenirs sont bons. Ça, c'est une décision à la fois d'égalité. Alors, d'égalité entre les personnes, d'égalité entre les familles, entre les territoires, de désenclavement. Et c'est dans des endroits, effectivement, plus les endroits sont... Alors, je ne vais pas dire paupérisés, mais plus on a des foyers... ouvriers modestes, plus évidemment cette mesure a une portée très importante. Il faut voir que, alors moi j'étais avant d'être dans le Nord, j'étais à Marseille il y a quelques années de ça, pendant une année à peu près. On a découvert, une fois que la mairie a été gagnée par la gauche, on a découvert que en fait il existait un bus fantôme qui était un bus en fait qui servait aux personnes les plus aisées. Ces personnes-là savaient à quel moment ils passaient. Il n'y avait pas d'arrêt, mais ils savaient exactement où ils s'arrêtaient. Ils savaient lui faire signe, ils savaient le reconnaître. Donc c'était un bus vraiment fantôme qui justement évitait, et donc qui allait vers les plages, et qui évitait aux jeunes, notamment, et aux familles des quartiers populaires, d'être mélangés avec la bourgeoisie locale. Donc vous voyez, il y a des exemples. C'est pour vous dire que la question des transports, c'est central. Centrale. C'est pas seulement une décision, alors c'est une décision politique, mais ça induit énormément de choses, énormément sur le désenclavement, surtout, j'ai envie de dire, quand on a une université qui a extrêmement souffert pendant la période Covid, on en avait suffisamment parlé ici avec les distributions alimentaires et les jeunes qui étaient coincés dans leurs 9 mètres carrés au milieu des bois et qui n'avaient pas de wifi, enfin bref. Quand on a un campus à 12 km du centre-ville, j'estime que la question elle est encore plus prégnante. Et tout à l'heure, Ludovic parlait de problèmes d'attractivité. Ça en ferait partie. Un des moyens de retrouver de l'attractivité serait de faire savoir justement aux étudiants qu'ils peuvent avoir accès au centre-ville gratuitement. Et donc, quand on est boursier, imaginez le tarif la part que ça prend dans le budget des transports à Orléans, c'est juste pas possible. Donc oui, évidemment, c'est une question centrale et c'est quelque chose qui devrait être naturel. Enfin, pour moi, je mets vraiment les transports au même niveau que l'eau, que l'éducation. Enfin, c'est quelque chose qui devrait être, selon moi, dans les villes où c'est possible, et les métropoles où c'est possible, devrait être totalement gratuit. Ce serait vraiment une mesure, une mesure d'égalité républicaine, tout simplement.
Ludovic Bourreau à Orléans, gratuité des transports en commun, c'est mort.
Moi, j'aimerais interroger, en fait, la gratuité via un prisme élargi et global, en fait. Pourquoi on veut la gratuité? Il y a une dimension clairement sociale là-dedans. Et là, je rejoins Mourad là-dessus. C'est-à-dire que moi, je prends le bus, les transports en commun, le tram, et ce sont des transports en commun populaires. Oui. Et donc, du coup, si on dit aux gens qui le prennent aujourd'hui que ce sera gratuit, c'est une mesure sociale. Et donc, si on dit que c'est ça la volonté politique, eh ben, ok, faisons-le, mesure sociale. Là où je m'interroge, c'est parce que j'ai lu des études sur la gratuité des transports. Quel est l'impact sur la fréquentation des transports lorsqu'il y a une gratuité? Alors, les chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure à Clermont, sont absolument incroyables, plus 30%. J'ai pas vu ça partout. Hein.
Oui, non, non, mais
j'ai pas vu ça partout, absolument. Donc je, voilà, j'interroge ce sujet-là. Ce qu'on sait, c'est que si on choisit la gratuité, ce qui est fondamental en amont de la gratuité, c'est l'efficacité des transports en commun. C'est-à-dire, vous offrez un service, j'exagère, sur un territoire A, un service de transport en commun minable gratuit, personne ne va le prendre.
Bien sûr.
Exemple caricatural. Donc il faut absolument densifier le réseau de transport en commun, le rendre plus efficace. Parfois, quand j'attends le tram ou le bus, j'attends 15 minutes aller, 15 minutes au retour, pas de bol, je perds 30 minutes. Et ben, il y a des personnes qui se disent dans mon agenda, je ne peux pas attendre parce qu'il faut que j'aille chercher le petit à l'école. Et donc, du coup, ça n'est pas du tout concurrentiel par rapport à la voiture. On le sait, ce qu'il faut traiter en premier, c'est l'efficacité des transports. Et puis ensuite, une fois que c'est efficace et que c'est concurrentiel par rapport à la voiture, parce que c'est le véritable sujet selon moi, étudions la gratuité. Et moi, je suis pour étudier la gratuité, mettons partielle, le week-end, et surtout chiffrer, c'est-à-dire qu'on nous dise combien ça coûte. Parce que là, on avance des chiffres à la métropole depuis 2 ans. Qui sont ahurissants. Enfin, moi, je ne les comprends pas. Oui, la gratuité coûterait 25 millions. Ça, qu'on m'explique, qu'on me détaille les chiffres, parce que je ne comprends pas comment, lorsqu'une billetterie à bloc rapporte 19 millions, comment ça coûterait 25 millions la gratuité, sachant qu'on fait des économies sur la billetterie. Voilà. Donc, en fait, il faut regarder, il faut mettre tout ça à plat, en discuter. Et ce que l'on sait, c'est qu'en fait, il n'y a pas de solution miracle, en fait.
Bien sûr. Victor ?
Oui, un plan du coup pour améliorer l'efficacité des transports en commun, ce serait aussi évidemment de réduire le trafic de voitures.
Absolument.
Non, bah voilà, c'était juste pour souligner ça. Comme on parlait de plan vélo tout à l'heure et de possibilités de...
Tu te présentes à la mairie ?
Non.
Oui, mais Victor, on est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'il faudrait, il faut que naturellement, par les mesures prises, la voiture soit tellement peu attractive qu'elle en devient une sorte de boulet économiquement et pratiquement. Sauf qu'on est dans une ville qui, à chaque fois qu'il y a un événement commercial, se félicite, alors qu'on va voir l'histoire des zones à faible émission là, se félicite de rendre les parkings gratuits. Donc ça veut dire, venez, quoi, hein, il suffit d'aller se poser sur le pont Georges V un samedi après-midi pour mesurer les effets de cette politique complètement folle et complètement archaïque. Mais il y a ça. Et puis, si tu sais que tu vas pouvoir garer ta voiture en gécume, garer comme une merde, comme c'est dénoncé par les associations de cyclistes, photo à l'appui, que tu vas pouvoir te mettre ta bagnole en centre-ville piéton sans avoir le moindre risque de contravention, forcément que ça t'encourage à prendre la bagnole, effectivement. Mais c'est, elle ne sera éradiquée, cette folie des voitures et des SUV ne sera éradiquée que si effectivement on arrive à ce résultat où c'est vraiment galère de prendre sa voiture. On prend sa voiture le matin, on se dit merde, comment je vais faire, je vais encore passer une demi-heure pour trouver une place et compagnie. Ce que disait Ludovic est tout à fait vrai. Il faut que ce soit effectivement beaucoup plus performant. Je parle sous ton contrôle, Victor. mais à Lille, par exemple, moi j'habite à 2 stations de métro de mon lieu de travail. Je peux aisément, mais je suis pas le seul, hein, je peux aisément rentrer le midi pour aller déjeuner et revenir.
Il
y a un métro toutes les minutes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de courir pour aller, quand on voit le métro arriver, on s'en moque éperdument, on sait qu'il y en a un suivant et il va très très vite. Ce qui fait qu'on peut, on relie le centre-ville, par exemple, à Oisem, le quartier populaire de Oisem, en l'espace de 4 minutes. Mais 4 minutes du départ du bureau jusqu'à l'arrivée au domicile. Donc c'est complètement fou. Et ça, effectivement, on ne réfléchit plus à prendre une carte de transport quand on arrive à l'Île-Flandre, un abonnement pour la semaine, parce qu'on sait que ça va être efficace et rentabilisé de manière, en plus, rentabilisé de manière assez rapide. Donc c'est, effectivement, c'est tout un tout. Je le redis et je terminerai sur ça, tout part de la volonté politique. Et là, elle n'existe pas autant qu'elle est très présente, comme vous avez pu l'entendre et le lire à Clermont-Ferrand.
Mais surtout qu'à Lille, en plus, il y a tout ce qui a été réfléchi au niveau de la circulation de la ville est fait pour handicaper les voitures. C'est quasiment un sens unique dans tous les sens. Il y a très peu de double circulation, sauf pour les bus. Il y avait un énorme parking qui est devenu un parc, le parc Jean-Baptiste Lebas. Et c'est vrai qu'au final, à Lille, tout encourage pour faire chier les automobilistes, en fait. Et c'est vrai qu'à côté de ça, comme les modes de transport urbains sont très efficaces, bah, en fait, ça encourage les gens à prendre les transports en commun et ça marche très très bien. C'est un cycle vertueux, quoi.
Bien sûr, mais effectivement, il l'appelle d'ailleurs Martine. Bon, je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça va être une femme, je pense. Martine Aubry l'appelle uniquement par son prénom. Et en gros, les discours des riverains et des commerçants, c'est de dire « elle nous fait chier ». Voilà, c'est vrai, littéralement la phrase « elle nous fait chier, Martine ». Et par exemple, le quartier d'Oisem où j'habite va devenir prochainement, là, voire même, si je me demande, c'est pas au 1er juin, va devenir payant. Les places vont être payantes alors qu'actuellement elles sont gratuites. On sait que ça, on revient au discours de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sait que c'est impopulaire, mais qu'à terme, à court et moyen terme, c'est quelque chose qui va améliorer la circulation, qui va améliorer les mobilités et en plus, cerise sur le gâteau, qui va améliorer la, on n'en a pas parlé, mais la santé. Quand même,
bien sûr, on n'a pas parlé de santé, effectivement.
De santé publique. Oui, il faut avoir le courage de la santé publique pour ses administrés. Sinon, on fait autre chose que de la politique.
Tout à fait. Je voulais parler de culture avec Ludovic Bourreau pour terminer cette émission, mais tu restes avec nous, Mourad?
Là, je vais devoir y aller parce que j'ai pas fini.
Oui, très bien.
Mais par contre, je vous écoute avec grand plaisir, évidemment. Je suis branché sur Radio Campus.
Pour les 5 dernières minutes, en tout cas. Merci à toi.
Ciao, Mourad.
Allez, la bise.
Merci à vous.
La bise.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Et puis, nous allons parler donc un peu quand même de culture sur la fin. 5 minutes, hein, on a peut-être le temps. Un festival le week-end dernier qui s'appelle Fusion Estivale. C'est un festival monté par des jeunes, notamment de Campus. 4e édition. Après, un lieu super sympa, le centre-ville d'Orléans, le jardin de l'évêché, et ces jeunes ont appris que c'était le dernier festival. Des raisons sont invoquées, mais bon, des travaux à l'hôtel du Pont-Loup, mais beaucoup à Orléans, on parle de bruit autour de ces endroits-là. Je suis allé à ce festival avec mon micro et j'ai rencontré des jeunes. Et je leur ai demandé, là, il y en avait plein, mais je vous en passer 3. Ils vont se présenter d'ailleurs et ils vont vous expliquer pourquoi c'est bien d'avoir un festival au centre-ville d'Orléans. Écoutez-les.
Lucas, Thibaut,
Clotilde.
Dernière édition hein, pour le Fusion Estival. Un peu de larmes aux yeux. On va commencer par toi,
Diane. Ouais.
Hein? Parce que tu en as fait d'autres avant.
J'ai fait l'année dernière, mais j'ai fait un jour. Bah, c'était vachement bien. Le deal est trop bien, on est dans un cadre magnifique. Ça finit pas trop tard, l'ambiance est très sympa. Et puis il y a plein de trucs à faire, les petits friperies et tout, donc non, c'est trop chouette.
Et c'est la dernière.
Et c'est la dernière, ouais. Mais s'il y a autre chose, c'est encore mieux.
Et toi?
Bah, pareil, moi j'ai fait l'année dernière, c'était super. Et puis là, cette année, c'est encore mieux parce que j'habite juste à côté, il fait super beau, tous nos amis sont là. Et puis voilà, puis l'année prochaine, si c'est un autre endroit, c'est pas grave, on va s'adapter, hein, y a pas de souci.
Tu habites à côté alors, on m'a dit qu'il y a des voisins qui se plaignaient, c'est pas toi alors?
Non, j'habite à côté, mais pas à côté, côté, donc ça va.
Et toi, c'est la première?
Et moi, c'est la première édition et c'est très sympa. Et honnêtement, c'est un peu dommage que ce soit la dernière parce que clairement, on aurait bien continué jusqu'au bout.
Mais vous venez pour quoi? Pour les artistes? Vous les connaissez avant, quand vous voyez là?
Pas du tout. Juste ce soir, si, on connaît quelques artistes, mais après, c'est pas pour les artistes, c'est plus pour le cadre et la musique quand même qu'on vient. Donc,
ouais, voilà. Pour l'ambiance aussi.
Pour l'ambiance, ouais, aussi. Ça fait plaisir aussi qu'il se passe quelque chose, un truc sympa au moins à Orléans, c'est pas souvent que ça arrive, et là, ça fait plaisir, quoi.
Bon. Un festival créé par des jeunes, avec plein de jeunes, ça manquait à Orléans. Hein.
Ouais. On pensait pas que ça existait, puis au final, c'est chouette, quoi. Voilà, c'est pratique, c'est pas très gros, c'est à taille humaine, c'est super agréable.
Il a tout dit.
Exactement pareil.
Il a tout dit. Oui, alors un festival, Ludovic, créé par des jeunes au centre-ville, dans un où ils pouvaient venir donc à vélo ou en tram, qui va peut-être être envoyé dans la périphérie d'Orléans. Encore un festival qui pourrait mourir.
Alors déjà, c'est un festival qui a fait preuve de beaucoup de choses.
Absolument.
Qui est né en 2018 au mandat précédent. Et j'ai plusieurs choses à dire sur ce sujet. Premièrement, c'est la destination.
On n'a plus que 2 minutes.
Allez, vite.
Allons-y.
C'est la destination de ce jardin.
Oui,
le jardin de l'évêché.
Qu'est-ce qu'on en fait ?
Il va être restructuré, il va y avoir des travaux. Donc c'est un peu logique que si les travaux ont lieu l'année prochaine, le festival soit délocalisé. Ça, pour moi, ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est au long terme. C'est-à-dire qu'on dise à ce festival, dès maintenant, où est-ce qu'ils seront l'année prochaine, parce que c'est important de les garder sur notre territoire. Donc, premier message politique, normalement, ça devrait arriver, si j'étais à leur place, très rapidement. Leur dire, voilà, on est content du boulot que vous avez fait. Maintenant, l'année prochaine, on vous propose tel endroit. Ça me paraît fondamental. Ensuite, je me pose la question de si on veut vraiment à l'avenir des festivals dans ce jardin. Moi, je pense que c'est une de ces destinations naturelles. Elle est à côté elle donne sur Dupanloup, qui est un lieu qui accueille des événements régulièrement. Je me demande pourquoi le Grand Piano Festival est présent sur 15 sites. Il aura lieu bientôt, nouveau festival. Il n'aura pas lieu dans ce jardin. Donc, je me pose la question pourquoi. Est-ce qu'on a déjà fait une croix sur l'événementiel dans ce jardin? Donc, ça, c'est une question à leur demander. Et puis, vous suggériez qu'un festival pourrait disparaître. J'espère bien que non. Ouais. Mais on ne les compte plus, les festivals qui disparaissent depuis désormais plusieurs années.
C'est ça. Oui.
J'allais dire, quand on regarde depuis 20 ans, quel est le festival qui est encore là, qui a été créé depuis 20 ans?
Belle question, bonne question.
Printemps de Bourges, peut-être.
Mais pas ici, oui.
Festival de Loire à Orléans, mais pour le reste, il y a eu beaucoup de festivals qui ont été annulés. Je pense au hip-hop, je pense au jazz, je pense aux arts numériques pour Orléanoïdes. Les voix d'Orléans sont encore là, mais le Parlement des écrivaines, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui disparaissent. Et en fait, ça pose la question de la vision de la politique culturelle de cette ville. Pour finir là-dessus, lorsque j'étais journaliste,